J'ai à cœur de vous parler ce matin du sujet du changement, la question du changement. C'est un sujet en fait qui est peu abordé directement, mais auquel on fait souvent référence. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent directement, mais souvent on a plein d'éléments qui reviennent finalement au changement. Rien de nouveau ou de transcendant ce matin, mais peut-être une autre approche, un autre angle de vue sur ce sujet. Mon désir est que notre connaissance de Dieu grandisse et donc que nous changions. Parce qu'en fait, le changement avec Dieu passe inévitablement par une meilleure compréhension de sa personne, de qui il est et du plan qu'il a pour chacun de nous. Je vous invite à remettre ces moments de culte dans la prière. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu qui est au-dessus de toute chose, tu es l'Éternel. Merci parce que tu désires te révéler à chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu désires que nous changions, c'est-à-dire que nous nous rapprochions de ce qu'est ta personne. Tu désires que nous soyons semblables à toi. Eh bien Seigneur, oui, fais silence en nos cœurs ce matin afin que ce que tu veux nous dire puisse nous parler, que nous soyons ouverts à ce que tu as à nous dire ce matin. Bénis ces moments, Seigneur. Amen. Tout d'abord, on va voir que Dieu ne change pas. Eh oui, je vous parle du changement, mais en fait, Dieu ne change pas. On lit dans Jacques 1, les versets 16 et 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. » Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit aussi, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Non, Dieu ne change pas, mais cependant, il est le Dieu du changement. Et on va voir tout d'abord que Dieu change le bien, le mal en bien. Il change même le mal en bien. Il y a dans la Bible de nombreux exemples dans lesquels Dieu a changé le mal en bien. On peut citer par exemple l'exemple de Joseph, qui après avoir été vendu par ses frères, a été placé à la tête de l'Égypte. Et ensuite, lorsque la famine est arrivée, c'est grâce à la sagesse que Dieu lui avait donnée que l'Égypte et toute sa famille aussi ont été sauvés. Ils ont survécu. C'est encore l'apôtre Paul qui nous explique le mieux comment Dieu désire changer le mal en bien dans chacune de nos vies. Et là, ça nous concerne plus particulièrement, plus personnellement. Et on lit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. » qui a réconcilié avec lui par Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Par le salut accompli en Jésus-Christ, Dieu change la malédiction qui découle de notre état de pécheur en réconciliation. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ma perception de Dieu doit changer. Ça, c'est encore un autre point qui est important. Dieu ne change pas, mais la perception que nous avons de Dieu, ce que nous connaissons de lui, change au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître. Et à ce sujet, l'exemple de Job est intéressant. L'histoire de Job est très ancienne. Job était vraisemblablement un contemporain des patriarches. La Bible nous dit que Job était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job était aussi le nomade le plus important de son temps et de sa région. Et Satan a éprouvé Job en faisant disparaître tous ses biens, en lui reprenant tous ses biens, jusqu'à même ses enfants. Job a beaucoup souffert, mais malgré tout ce qu'il a vécu, il est resté fidèle à son Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas remis en cause la justice de Dieu, sa supériorité et la confiance qu'il avait en lui. Ensuite, Job a beaucoup souffert dans sa santé. C'est intéressant le livre de Job. Si vous ne connaissez pas bien cette histoire, moi je vous encourage à le lire. C'est un peu long, mais c'est super intéressant. Et puis ensuite, Job a eu la visite de ses amis. Ses amis qui croyaient l'aider et qui en fait ont cherché à le mettre face à ses propres lacunes, dans leur compréhension très réductrice qu'ils avaient de la situation. Ils pensaient que quand une personne fait du bien, Dieu va le bénir. Partant de là, la bénédiction de Dieu était, entre autres choses, la réponse à la bonne action de l'homme. C'est ce qu'ils pensaient. Ils pensaient donc que si Job était éprouvé, c'est parce qu'il avait mal agi envers son Dieu, et donc qu'il était en partie responsable de sa situation. Mais dans toutes ces difficultés, Job est resté fidèle à son Dieu. Et c'est finalement lorsque Job a été confronté à la puissance et à la majesté divine qu'il s'est incliné avec humilité, qu'il a arrêté de répliquer à Dieu. C'est lorsque la perception que Job avait de Dieu a grandi que Job a pu plier le genou devant lui. Job a eu tout un dialogue avec Dieu dans les derniers chapitres de Job. Et maintenant, on va lire quelques versets dans Job 42, donc le dernier chapitre de Job, la dernière réponse de Job à son Dieu. Et donc, dans cette réponse, Job reprend certaines paroles de Dieu ou certaines questions que Dieu lui posait. Job répondit à l'Éternel. Et là, on voit une question. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Puis ensuite, là, on voit une question que Dieu lui a posée. « Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ?» La réponse de Job, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. » Encore une interrogation de Dieu, « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai. » Et tu me renseigneras. Et là, Job qui répond, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Non, Dieu ne change pas, mais ce que je connais de lui doit changer, doit progresser. » Job a compris qu'il ne connaissait pas bien son Dieu. Il a pu dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et c'est vrai que tout comme Job, nous avons nous aussi à voir notre Dieu, à avoir avec lui un face-à-face, à le rencontrer personnellement, intimement. Mais le changement nécessite que nous soyons aussi vigilants. On doit être vigilant parce que, tout simplement parce que tous les changements ne sont pas bons. C'est Winston Churchill qui disait: il n'y a rien de négatif dans le changement, pour autant qu'il soit dans la bonne direction. Le monde qui nous entoure change, et il change même de plus en plus vite. Les changements que nous acceptons dans nos vies doivent être orientés dans la même direction que le plan de Dieu pour nous. Ils doivent être cohérents avec les changements que Dieu désire pour nous, parce que Dieu désire certains changements pour nous. Oui, c'est vrai, Dieu désire produire des changements en nous. Dieu désire tout d'abord établir une relation personnelle. Et là, je me permets d'insister un petit peu. C'est le premier changement que Dieu désire accomplir avec nous. Et ce premier changement, c'est d'établir une relation personnelle. C'est la première chose que Dieu désire changer en nous parce que notre état naturel de péché empêche toute relation avec lui. Pourquoi ? Tout d'abord, notre condition naturelle. Les exigences de Dieu pour pouvoir vivre une relation avec lui sont très, très élevées. Elles sont tellement élevées, un niveau tellement grand, qu'elles nécessitent d'atteindre le niveau de perfection, comme lui. Par nature, Dieu est saint, et il ne peut pas tolérer le contact avec ce qui n'est pas saint comme lui. En Lévitique 19, Dieu pose d'abord ce principe: « Vous serez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Et ensuite, tout le livre de Lévitique montre les détails de la loi que l'homme devait respecter s'il voulait montrer qu'il répond aux exigences de Dieu. Évidemment, cette exigence est inatteignable pour l'homme. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». On ne peut ni se sauver soi-même, ni compter sur quelqu'un de notre entourage pour nous sauver. Voyons maintenant quelle est la nature de Dieu. On l'a déjà vu un petit peu. Dieu est saint. C'est la raison pour laquelle notre état de pécheur entraîne la condamnation, l'éloignement de Dieu. Mais Dieu est aussi de par sa nature profondément amour. Dans son amour, il désire que tous les hommes soient sauvés de leur état naturel de pécheur. Il désire pouvoir se rapprocher de nous, ou disons plutôt, il désire nous rapprocher de lui. Jésus-Christ est notre réconciliation. Nous avons vu que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Mais dans son amour, Dieu nous donne son Fils, Jésus-Christ, comme le seul chemin pour nous conduire à lui. Par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, nous pouvons, bien sûr, accepter le salut offert à Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir cette possibilité de faire le choix de nous tourner vers Dieu en acceptant son salut. Et déjà le fait d'avoir cette possibilité, c'est déjà une grâce de Dieu. Mais avec l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, on peut aussi être pardonné, réconcilié, c'est là le centre de son message. On peut naître de nouveau, recevoir la vie éternelle. On peut aussi avoir un accès direct avec Dieu. Entrer dans la famille des enfants de Dieu, comprendre les choses de Dieu. On peut aussi, et c'est le but, devenir une nouvelle personne. Et enfin, recevoir la capacité de changer, de grandir et finalement de ressembler de plus en plus, petit à petit, toujours plus à notre Sauveur, à notre Seigneur, ressembler toujours plus à Jésus-Christ lui-même. Alors je ne vais pas développer plus ce point de la conversion, mais je vous propose que si quelqu'un se sent concerné ce matin, si pour quelqu'un ce n'est pas quelque chose de clair, ne laissez pas passer l'occasion. Aujourd'hui c'est le jour du salut, c'est trop important. Venez me trouver ou trouver d'autres personnes à la fin du culte, mais ne repartez pas d'ici sans avoir trouvé votre Sauveur, votre Seigneur. Ce premier changement que Dieu fait dans une vie est aussi le plus important. Le plus important parce que c'est celui qui a le plus d'incidence. Mais en même temps, ce premier changement n'en reste pas moins que le premier. Le premier d'une série, le premier d'un processus. Arrêtons-nous maintenant un petit peu sur ce que Dieu veut changer dans nos vies et pourquoi il veut faire ces changements. On va tout d'abord parler de la finalité du changement. Pourquoi est-ce que Dieu désire qu'on soit changé? Dieu désire nous changer parce qu'il a un projet extraordinaire. Il prépare une place pour tous ses enfants dans son royaume pour passer l'éternité en sa présence. C'est pas rien ça, passer l'éternité en sa présence. C'est l'espérance finale. La finalité, c'est donc la bienheureuse espérance qui nous est promise à de nombreuses reprises dans la Bible. Jésus l'a communiqué à ses disciples. Dans la nuit où Jésus fut livré, il a partagé beaucoup de choses avec ses disciples. Ça correspond au chapitre 13 à 16 de l'évangile de Jean. 4 chapitres dans une première partie de nuit. Ce fut pour Jésus et ses disciples un temps tout à fait particulier, un temps de préparation à la séparation pour les disciples, mais aussi un temps d'affermissement et d'encouragement pour faire face au départ imminent du Christ et à l'envoi prochain du Saint-Esprit. Tout le contenu de ces 4 chapitres a été vécu pendant le début de cette nuit. Et c'est dans ce contexte que nous lisons Jean 14, les 3 premiers versets, où Jésus nous dit qu'il va préparer une place, où Jésus dit à ses disciples qu'il va leur préparer une place dans la maison de son Père, où il donne la promesse aussi de son retour pour nous prendre avec lui. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Avant de quitter ses disciples, Jésus tenait à leur laisser cette magnifique espérance. Et la finalité pour laquelle Dieu désire nous préparer en nous changeant est cette promesse de passer l'éternité en sa présence et avec l'ensemble de nos frères et sœurs de tous les temps. Je vous invite à lire un passage qui nous donne des précisions à ce sujet. C'est dans Apocalypse. Dans Apocalypse, il n'y a pas que des passages indigestes. Apocalypse 7. « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Oui, c'est vrai, nous faisons partie d'un grand peuple qui sera pour toujours réuni dans la présence de son Dieu, de l'Éternel. C'est la lumière de Dieu qui éclairera toute chose. Il n'y aura plus de nuit parce que la lumière de Dieu brillera tout le temps. Moi, je vous invite à lire ces quelques derniers chapitres de l'Apocalypse. Si vous avez besoin de punch, là, vous pouvez en trouver. Mais Dieu désire nous changer dès maintenant. Bien sûr, on sera changé dans l'éternité, mais il désire déjà nous changer dès aujourd'hui, dès maintenant. C'est vrai qu'on pourrait se dire, de toute façon, on sera changé en un clin d'œil, en un instant. Alors, à quoi bon vouloir être changé maintenant? Paul nous dit en Philippiens que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Bien sûr, Dieu nous aime comme nous sommes, mais il refuse de nous laisser tels quels. Il veut que nous devenions comme Jésus. Dieu veut changer notre cœur. Est-ce que vous y croyez? Ou pensez-vous peut-être que votre caractère ne peut pas être changé? C'est pourtant dans la volonté de Dieu de nous changer et de nous changer dès maintenant. À ce sujet, on peut avoir de fausses idées. Par exemple, certains peuvent dire « c'est dans ma nature de m'inquiéter » ou bien « c'est dans ma nature d'être colérique » ou encore « je n'y peux rien ». En fait, ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu parce qu'on a été créé à l'image de Jésus. Dieu désire nous changer et Jésus est le modèle de ce changement. En Galates 2, nous lisons « j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette donc pas la grâce de Dieu. » Maintenant, il faut laisser se manifester cette nouvelle nature que Dieu donne à chacun de ses enfants. Puis je vous donne un petit exemple, une petite histoire qui illustre bien cela. C'est une histoire qui date un petit peu. Elle se passe au début du 20e siècle, en Irlande. Une vieille dame fut la première à faire installer l'électricité dans sa petite maison. Quelques semaines après, un technicien du fournisseur d'électricité se présente pour vérifier l'installation. Il lui pose alors cette question. « Pourriez-vous m'indiquer pourquoi est-ce que votre compteur indique si peu de consommation ? Est-ce que vous utilisez l'électricité ?»« Bien sûr, » répondit la vieille dame. « Tous les soirs, au coucher du soleil, je mets la lumière, tout juste assez longtemps pour allumer les bougies, puis je l'éteins. » Elle avait accès à l'électricité, mais elle ne l'utilisait pas. De même, nous aussi, nous avons accès à l'énergie divine, mais nous ne l'utilisons souvent pas, ou pas assez souvent. Notre âme est sauvée, mais notre cœur reste peut-être inchangé. Nous faisons confiance à Jésus pour notre salut, mais nous résistons peut-être quand il s'agit de transformation. Dieu, lui, il est plein d'ambition pour notre vie. Celui qui nous a sauvés désire aussi changer notre cœur. Ses projets prévoient une transformation totale. On lit dans Romains, En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Et on lit aussi en Colossiens, « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Lorsque sur la croix Jésus a dit « Tout est accompli », en fait, ça englobait bien sûr le salut, mais ça englobait aussi toute cette notion de changement que Jésus désire accomplir dans nos vies. Et même le changement final était compris dedans. Ce changement que nous connaîtrons tous lorsque nous serons transformés pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Je vous invite à quelques moments de silence et peut-être de réflexion, et je terminerai par une prière. Oui, Seigneur, tu es le Dieu du changement. Merci parce que tu connais nous, tous nos besoins. Tu sais comment nous sommes faits. C'est toi qui nous as créés. Merci parce que ton amour a permis que tu envoies ton Fils afin que nous soyons sauvés, que nous soyons réconciliés avec toi. Merci, Seigneur, parce que cette œuvre de réconciliation, tu désires la poursuivre, jusqu'à ce que nous te ressemblions, jusqu'à ce que nous soyons comme toi. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin te dire que nous désirons te ressembler, que nous désirons que ta volonté se manifeste en chacun de nous, afin que ta puissance se manifeste en nous et au travers de nous. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour ton plan, pour ce plan qui est magnifique, qui est merveilleux. Merci aussi pour cette espérance que tu nous donnes d'être pour toujours dans ta présence avec tous nos frères et sœurs de tous les temps. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Nous voulons partager la scène maintenant, et c'est bien parce que la scène nous rappelle aussi notre bienheureuse espérance. C'est vrai que lors de la première scène, Jésus a dit à ses disciples, et j'aime beaucoup ce verset, moi, parce qu'il nous donne un petit coup d'œil sur l'éternité future. Jésus a dit, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » En instituant la Sainte Cène, Jésus se voyait déjà dans le ciel, et il nous y voyait aussi, buvant du fruit de la vigne avec l'ensemble des croyants. L'espérance, c'est de partager cette vision. Oui, nous boirons du fruit de la vigne dans le ciel avec Jésus, tous ensemble réunis. Qu'est-ce que ce sera glorieux ! L'apôtre Paul nous rappelle la signification de la Sainte Cène. Elle est un souvenir des souffrances de Christ à la croix. La croix est vide parce qu'il est ressuscité. Mais la Sainte Cène, c'est un souvenir de ses souffrances à la croix. Mais la Sainte Cène, c'est aussi une anticipation de sa venue. C'est aussi annoncer son prochain retour. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dieu fait tout pour que nous n'oublions jamais cette espérance. En prenant la Sainte Cène, nos yeux sont tournés vers la croix, vers le passé, mais ils sont aussi tournés vers l'avenir, vers son retour, vers notre entrée dans son ciel de gloire et vers l'éternité que nous passerons dans la maison du Père, tous ensemble réunis. Cela nous rappelle que c'est l'œuvre accomplie par Christ à la croix qui nous donne accès et plein accès à cette espérance bénie. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de demander à l'une ou l'autre des personnes de venir faire le service. Donc, si deux personnes peuvent s'avancer, s'il vous plaît.
peut-être encore une deuxième personne. Je vais demander à Nathan de prier pour remettre ce pain qui symbolise le corps de Christ qui a été crucifié pour nous.
Seigneur, merci pour ce moment qu'on peut passer ensemble en souvenir de ton corps qui a été crucifié à la croix, qui a été battu, abîmé à cause de mes péchés, de mes fautes, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Amen.
Je vous invite à profiter du passage du pain dans les rangs pour rester dans le recueillement, mais aussi, pourquoi pas, prier, rendre toute la gloire à notre Dieu.
Entrions dans cette nouvelle identité que tu as déjà posée en nous, de ressembler Jésus, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous voulons ce matin que tu entres ça au fond de nos cœurs, Seigneur, et que tu ne nous transformes pas en une nature uniforme, tous pareils. Tu tiens compte de chacun d'entre nous, mais tu nous donnes une nouvelle identité d'enfants de Dieu. Et à ton image, Seigneur Jésus, tu es venu la rétablir, cette image en nous. Et nous voulons te louer, te bénir, t'adorer, te rendre grâce au travers de ce pain et de ce vin et de l'œuvre que tu as accomplie sur cette croix pour nous rappeler pourquoi tu as fait ça. Par ton nom puissant, Jésus. Amen. Amen.
C'est Pierrick qui va prier pour ce jus de raisin qui symbolise le sang de Christ qui a coulé pour nous.
Je vais vous lire un cantique qui est une prière. Dieu, je te loue car tu m'as répondu et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue car tu m'as répondu et tu m'as envoyé ton salut. Tu étais la pierre rejetée par la main des ouvriers. Tu es devenu la pierre d'angle. Divin envoyé par les hommes méprisés, tu es devenu le premier. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici le jour que Dieu a fait. Chantons notre joie sans cesse. Il est devenu le premier. Amen.
Si quelqu'un désire ou préfère partager la coupe, levez la main, puis je passerai dans les rangs. Ce matin, il y a beaucoup d'annonces à partager. Tout d'abord, le programme de la semaine. Demain, Femme Club à 14h chez Rebecca. Demain soir, le conseil à 19h30. Demain soir toujours, à 20h30, préparation du club d'enfants, donc qui aura lieu samedi. Mardi, à 14h30, étude biblique des aînés. À 20h30, ce sont les cellules. Alors c'est important les cellules, parce que vous avez vu que le programme est bien chargé, donc il y a aussi beaucoup besoin de prier pour cela, et de prier aussi pour tous les sujets de l'Église. Donc les cellules, la cellule de Gex se réunit chez nous, la cellule de Collonge chez Pierrick et Lydia, la cellule de Prévesin chez Emmanuel et Rebecca, histoire de changer un petit peu. Mercredi à 20h30, la commission bricolage chez Emmanuel et Rebecca. Puis peut-être je vais laisser la place à Rebecca maintenant pour qu'elle nous rappelle quelques informations, puis peut-être nous en donne des nouvelles.
Alors, on va essayer de ne pas tout mélanger. Donc, ce samedi, il y a le club d'enfants. Mais moi, j'aimerais vous parler du club d'été 2014. Moi, je suis déjà dans la joie. On a plein d'inscriptions. On a 40 enfants déjà inscrits. On a plus de 40 bénévoles inscrits. C'est juste extraordinaire. J'ai juste deux appels à faire. Si on a à peu près le même nombre d'enfants qu'on a eu l'année passée, donc on a eu à peu près 80 enfants, on a dit on ne montera pas plus que 100 pour cette année. Et il nous manquerait 4 moniteurs et 6 aides moniteurs. Alors, pour être moniteur, il faut avoir minimum 18 ans, être baptisé, engagé. Et puis, pour être aide moniteur, c'est à partir de 15 ans. Donc c'est du 14 au 18 juillet pour ceux qui ne connaissent pas les dates. Ensuite, cette année, il y a du changement, ça tombe bien. C'est ce qu'on nous demande. D'habitude, on faisait une réunion tous ensemble et après on travaillait chacun de son côté. Cette année, c'est différent. Il y a des commissions qui sont déjà en route. Par exemple, on a l'enseignement qui est pris en charge par Jean-Paul qui est déjà en route. On a la commission louange chez Jacques qui a pris ça comme responsable pour la louange. Et ce mercredi, à 20h30, chez nous, c'est la commission bricolage qui va se mettre en route. J'ai déjà contacté les gens, mais si j'ai oublié des personnes, s'il y a des personnes qui aimeraient encore venir nous aider, il y a de la place pour tout le monde. Donc ce mercredi, à 20h30, chez nous. Et puis, il y a la commission sport qui va se mettre en route. Là, c'est pareil, j'ai déjà contacté les personnes, mais tous ceux qui veulent venir nous aider... Donc, ça sera le samedi 24 mai à 14h30 chez nous. Et vous avez intérêt d'être en forme parce qu'il y a le coach d'Audrey qui va venir vous aider. Moi, j'ai commencé le tennis hier avec lui. Je suis fracassée. Donc, bon courage à tous et merci à chacun pour votre engagement.
Vous avez remarqué, au club d'été, ils ont des commissions maintenant. C'est un sacré clin d'œil, n'empêche, pour l'Église. La suite des annonces. Jeudi, à 18h, il y a la rencontre de la pastorale. Jeudi, la chorale. C'est pas la reprise, c'est la suite, en fait. Samedi prochain, à 10h, le club d'enfants. Je crois qu'il y a des papillons qui sont à disposition au fond de la salle. Prenez-les, surtout distribuez-les. Samedi à 18h30, le groupe de jeunes se retrouve ici à l'église sur le parking. Et puis ensuite, ils vont aller au concert de Louise. À cette information, donc Louise fait un concert pour lancer son nouveau CD. Et il y a des CD qui sont à disposition à la librairie. Si vous voulez acheter des billets pour aller au concert, vous pouvez voir avec Johanna. Dimanche prochain, là c'est un petit peu une reprise, hein. Thé café, ça faisait un mois et demi, ça va faire du bien de se retrouver le matin avant le culte. Hein. Donc là, dimanche prochain, café thé à 9h30 avant le culte, le culte à 10h30. Je crois que j'ai fait le tour pour les...
Dimanche prochain.
Oui, dimanche prochain, oui. Ah ouais, c'est le, ouais, là il y a un petit couac là. C'est pas grave, c'était pour voir si vous suivez bien, comme on dit. Hein. Concernant les nouvelles des uns et des autres, les nouvelles des membres de l'Église et des amis qui gravitent autour, continuons de penser à Mike. Lydie me disait plus que 18 jours en principe. Mais c'est important, ces derniers jours, ce n'est pas forcément toujours les plus simples. Continuons de prier pour lui, continuons aussi de lui écrire. Il y a de nouveaux papillons sur le tableau au fond avec des dates. Comme ça, il peut recevoir régulièrement du courrier. C'est important, c'est important de le soutenir. C'est important aussi qu'il ait des contacts avec nous. Et ces lettres lui font du bien. Il n'a pas beaucoup de choses à faire dans la journée. Donc, toute la journée, attendre que le soir arrive, c'est long. Lire une lettre, c'est un petit coup d'œil sympa. Des nouvelles de Guylaine. Guylaine et Jacques étaient en cure à Aix-les-Bains et puis Guylaine a fait une chute sur un trottoir et elle a des fractures au niveau d'un coude. Alors, pensons vraiment à Guylaine qui souffre encore dans sa santé. Donc, elle a dû être hospitalisée. Une opération de son coude s'avérait indispensable. Demandons aussi à notre Dieu de les garder tous les deux durant cette nouvelle épreuve, cette nouvelle étape. Remettons-les vraiment dans nos prières. Une autre petite annonce. Certaines personnes ont peut-être eu l'information. Il y a le réseau évangélique suisse qui a écrit une lettre de mise au point par rapport à un prédicateur qui va venir dans la région de Genève par rapport à des questions d'homophobie. Donc, si des fois vous avez eu une information, si vous vous posez des questions, je vais afficher la lettre au fond de la salle tout à l'heure. Sinon, une autre information, il y a une formation à la relation d'aide qui est faite par Jacques Poujol et Cosette Fébrici. Donc, on a déjà des personnes dans l'Église qui ont suivi cette formation. On vous la recommande. Si quelqu'un veut faire une formation de qualité dans ce domaine, ils peuvent y aller presque les yeux fermés. C'est quand même une formation qui engage, qui dure 3 ans. Il faut contacter. Donc là, j'ai des papillons que je vais mettre à disposition au fond de la salle. Si vous voulez aussi plus de questions, vous pouvez demander soit à Jean-Paul Lydie qui a fait la formation, soit à Raymond Pascal. Voilà, un sujet important. Sinon, je vous invite à vous lever. Oui ? Oui, oui, oui.
Il y a eu des changements dans le conseil d'anciens. C'est un petit peu passé comme une formalité, entre guillemets, mais ce n'est pas une formalité. Autant pour Pierre, Philippe et John qui restent, pour Jean-Paul qui s'est retiré après des années d'engagement, et pour moi qui arrive, c'est des changements. Le conseil doit se réarticuler avec des nouvelles... on se connaît, on a déjà des relations, mais des nouvelles articulations, des choses à vivre ensemble, à reprendre, à repartager. Et c'est évident pour personne, et j'inclus les 4 membres du conseil actuel et aussi Jean-Paul qui a pris du recul dans cette nouvelle intégration. Et je pense que c'est important qu'on y pense, non pas comme une formalité à prier pour le conseil juste comme ça, mais avec l'arrière-plan, tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça importe au niveau de l'Église et de ce qui est à prendre en compte dans ces partages qui sont pas toujours simples, mais en tout cas constructifs et enrichissent. Mais je pense pense que notre vision et notre pensée du conseil d'anciens, mais pas de ce conseil à vue simple, mais de ce que ça implique au niveau de l'Église, doit être forte et profonde et persévérante.
Merci. Merci Raymond pour ces précisions. Oui.
Je suis très court. C'était, moi, je viens juste devant pour vous dire merci, parce que bien sûr qu'on va envoyer certainement une lettre de nouvelles au niveau de Virage, mais c'est toujours un petit peu impersonnel, mais ça se fait. Voilà, maintenant on envoie des mails. Mais moi, j'aime bien encore le téléphone et la voix. Merci à ceux qui nous ont aidés pour notre concert, la préparation du concert. Je ne vais pas citer tout le monde, mais il y en a beaucoup dans l'Église ici qui nous ont aidés avec leurs bras, en recevant du monde pour qu'ils puissent se reposer. Enfin bref. Merci, merci et merci. On aura l'occasion de témoigner plus tard de ce qui s'est passé, comment ça a été. Pour ceux qui y étaient, je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire un dessin. Mais je pense que ce n'est pas anodin tout ce qui s'est passé. Merci.
Voilà, je vous invite à vous lever pour écouter encore un dernier verset dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui, à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.